Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio et en podcast. La semaine dernière, on a vu l'impact que les attentats du 11 septembre ont eu sur le journalisme, la diffusion de l'information en ligne et notamment comment ils ont été à l'origine de la création de Google News. Cette semaine, je vous propose de poursuivre sur ces notions de journalisme et de terrorisme avec un nouvel invité. Jean-Paul Marthoz est journaliste. Il est chroniqueur au quotidien belge Le Soir, dont il a été chef du service étranger. C'est aussi lui qui dirige le module Médias et terrorisme à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Bonjour Jean-Paul Marthoz.
Bonjour.
Début septembre, s'est ouvert à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. Un procès sensible, évidemment très médiatisé. Et la parole des accusés, notamment Salah Abdeslam, a parfois fait les gros titres d'articles ou des bandeaux sur les chaînes d'information. Était-ce, à votre avis, une erreur de la part des journalistes ?
Je pense que c'était relativement attendu dans la mesure où ce personnage est là, c'est le seul terroriste survivant des attentats du 13 novembre. C'est une personne qui a focalisé énormément d'attention, qui n'a rien dit pendant des années lorsqu'il était en prison. Et donc, il me paraissait relativement attendu que les journalistes se focalisent sur lui. Cela dit, est-ce qu'il fallait le faire comme certains médias ont procédé, c'est-à-dire de titrer sur lui, de titrer sur ses paroles, sur ce qu'on a qualifié très vite de provocation? Moi, je pense que c'est là que se trouve la question. On ne peut pas, comme journaliste, ne pas parler de Salah Abdeslam, on ne peut pas négliger ce qu'il a dit, mais on peut certainement faire un arbitrage entre le journalisme qui doit informer, d'un autre côté, la volonté que semble avoir Salah Abdeslam d'utiliser ce procès pour se présenter comme étant un héros du djihadisme. Donc c'est là qu'on doit intervenir. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux titrer, comme l'ont fait d'ailleurs certains journaux ou certaines radios, titrer sur l'ouverture du procès, mais laisser à l'intérieur d'un article ou de l'émission, c'est-à-dire quelques paragraphes plus bas, si j'ose dire, les déclarations? Moi, je pense que c'est la formule qui me semblerait être la plus idéale parce qu'elle combine à la fois le devoir d'informer, mais aussi la nécessité de ne pas permettre à un terroriste d'utiliser les médias comme un élément de sa propre promotion, de sa propre héroïsation.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le choix des mots n'est pas évident dans ce genre de situation. Au sein même de la rédaction de RFI, il y a eu des interrogations. Savoir, par exemple, si c'était notre rôle de dire que Salah Abdeslam avait multiplié les provocations au cours de la première journée d'audience. Le choix des mots, ça se discute en conférence de rédaction, mais sur quoi peuvent s'appuyer les journalistes, justement, pour s'interroger et pouvoir trancher ?
Oui, je pense que c'est une question qui se pose à l'encontre de très nombreux mots quand on parle de terrorisme. C'est le fait, par exemple, de caractériser un acte de terroriste lui-même est très souvent sujet à pas mal de discussions avant que, par exemple, les autorités ou la justice ne décrètent que c'est un acte qualifié de terrorisme. Donc je pense que c'est normal qu'on s'interroge sur ces qualifications-là. C'est une partie, évidemment, qui relève du jugement de la rédaction. Moi, personnellement, je n'aurais pas nécessairement estimé que c'était une provocation, j'estimais que c'était un peu... je m'attendais soit de la part d'Abdeslam à un mutisme absolu, comme il l'avait fait, soit à une stratégie qui allait lui permettre d'attirer l'attention de son public essentiellement et de se présenter comme étant un héros d'une histoire dans laquelle il était essentiellement finalement celui qui ne s'est pas fait exploser ou qui a raté son attentat ou qui a été avant essentiellement un coursier ou un chauffeur, donc qui cherche à grandir son personnage au sein de la communauté potentielle de sympathisants dont il croit disposer. Donc je crois que dire une provocation, moi personnellement ça ne m'a pas nécessairement choqué, mais ce n'est pas le mot que j'aurais nécessairement utilisé. Je n'ai pas pensé à cela comme ça. J'aurais pensé à des déclarations outrancières, ou je ne sais pas. Enfin, il y a plusieurs mots. Je suis persuadé que dans certaines rédactions, d'autres mots ont été trouvés, mais c'est vrai que c'est un mot qui est apparu pratiquement dans pas mal de dépêches et d'émissions.
Lorsqu'un journaliste couvre un procès, il se doit de respecter aussi la question de la présomption d'innocence des accusés. Et ce procès a ce site spécifique, bien que la participation de Salah Abdeslam est revendiquée en fait par le personnage.
Oui, c'est vrai que c'est une question relativement difficile à trancher, mais sauf que par principe, un journaliste doit respecter la présomption d'innocence, donc doit respecter de certaine manière les mots qui vont être utilisés, notamment par les magistrats, par les juges, qui eux vont vraiment respecter cette présomption d'innocence. C'est d'ailleurs un élément essentiel de la de la façon dont les démocraties et le journalisme au sein de la démocratie, dont les démocraties assument leur rôle et répondent par la justice et par tous les principes et les garanties qu'offre cette justice au terrorisme, donc, qui est évidemment un phénomène qui ne respecte absolument pas ces principes-là. Donc c'est important, mais par ailleurs, il y a un travail d'information qui a été fait, un travail d'information qui se fonde même maintenant sur les déclarations de Salah Abdeslam, mais il y a eu un travail d'information qui était fait auparavant qui, évidemment, conforte de toute façon la responsabilité de ce personnage dans le déroulé des attentats. Donc, il faut constamment passer entre ce qui a été établi déjà par le travail d'information et le fait qu'on va utiliser peut-être un certain nombre de mots qui vont permettre de préserver quand même cette présomption d'innocence. On utilisera des mots comme présumé ou autre, ce genre de mots-là. Mais je pense que dans ce cas-ci, évidemment, lorsque des personnages revendiquent un acte, les journalistes sont dans un travail d'information qui leur permet d'affirmer un certain nombre de choses, appuyer sur ce travail d'information, sans que cela ne porte atteinte à la présomption d'innocence.
Jean-Paul Martos, des centaines de journalistes sont accrédités pour suivre les audiences de ce procès des attentats du 13 novembre 2015. On se doute bien que ces centaines de journalistes n'ont pas des profils de journalistes judiciaires. Est-ce un handicap pour eux ?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de journalistes qui ont une longue expérience du journalisme judiciaire et que c'est vrai qu'ils sont certainement à l'aise pour décoder tout ce qui est en train de se passer dans la salle d'audience. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de journalistes ont pour spécialité le terrorisme ou les questions internationales ou d'autres spécialisations. Et je pense que ceux-là sont tout aussi pertinents dans la mesure où ils peuvent apporter dans la couverture de ce procès qui a besoin d'explications, de contextualisation, d'interprétation. Ils peuvent apporter leur spécialité et je crois que c'est fondamental que l'on puisse à tous les moments, avoir des journalistes dans une rédaction qui viennent de différentes fonctions, qui ont différentes expertises et qui peuvent, à ce moment-là, intervenir d'une manière pertinente. Lorsque, par exemple, imaginons, il y aura des interventions sur la situation en Syrie, bien c'est important d'avoir à ce moment-là des journalistes qui ont couvert la situation syrienne, peut-être davantage que des journalistes judiciaires. Donc je pense que la clé d'une bonne couverture de ce procès, c'est de faire en sorte que dans les rédactions, on puisse mettre ensemble, on puisse combiner toutes les compétences, parce que c'est un procès qui dépasse sa nature judiciaire, qui engage une réflexion sur le terrorisme comme phénomène général, qui est un phénomène international, sociétal et autre. Et donc, je crois que dans ce cas-ci, on aura certainement l'occasion, puisque ce procès va être très long et il y aura énormément d'intervenants, il y aura énormément de compétences qui vont être requises. Et je pense que dans ce cadre-là, les juges judiciaires ne sont pas les seuls à pouvoir travailler de manière correcte sur cette question-là. Mais je pense que c'est la coopération au sein des rédactions qui est essentielle.
Arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de formation spécifique pour couvrir des procès pour terrorisme pour les journalistes.
Non, je ne connais pas dans les écoles de journalisme des formations spécifiques. C'est vrai que nous, à l'école de journalisme de Louvain, donc qui dépend de l'Université catholique de Louvain, on a introduit cette formation, qui est une formation qui est parallèle au cours de journalisme sur la couverture du terrorisme dans les médias, mais dans laquelle il y a une soirée consacrée à la couverture des procès. Mais je ne connais pas d'autres exemples dans d'autres écoles de journalisme. Je pense que, par ailleurs, ce sera un élément extrêmement intéressant à imaginer au sein d'associations, par exemple de la presse judiciaire, d'avoir peut-être des formations qui permettent d'apporter les éléments qui permettraient à des journalistes qui suivent les questions judiciaires d'avoir cette compétence plus large étendue aux questions du terrorisme.
On est sur RFI, il y a probablement des journalistes qui couvrent quotidiennement des faits de terrorisme, mais près de chez eux, je pense notamment à ceux qui vivent dans les pays du Sahel. Dans la couverture du terrorisme, avez-vous l'impression que c'est peut-être de plus en plus compliqué pour les journalistes que de suivre ces questions et de couvrir ces questions-là au quotidien depuis ces dernières décennies ?
Oui, enfin, je pense qu'à la fois, il y a une plus grande connaissance du phénomène terroriste au sein des médias. Il y a un certain nombre de journalistes qui se sont spécialisés. Et donc, on arrive à avoir à disposer d'un ensemble dans la profession de personnes qui sont à même de couvrir ce dossier de manière complexe et de travailler avec d'autres collègues, d'ailleurs, lorsqu'il faut aller plus loin sur des sujets plus précis qui font partie du dossier terroriste. Mais c'est vrai que la difficulté est réelle dans un certain nombre de pays. Par exemple, de couvrir le terrorisme dans le pays du Sahel, par exemple, est extrêmement plus compliqué dans la mesure où c'est extrêmement dangereux, où les zones rouges où les journalistes ne peuvent plus aller au risque d'être enlevés posent réellement un problème d'accès. ou il peut aussi avoir des pressions de la part des autorités pour ne pas couvrir un certain nombre d'actions menées contre le terrorisme. Donc je pense que c'est, oui, extrêmement difficile. Il y a des régions dans le monde qui sont devenues des régions qui sont hors limite pour la presse, et ça réduit la capacité que les journalistes peuvent avoir pour être sur le terrain et pouvoir faire le travail concrètement, rencontrer des gens et le faire sans être nécessairement obligé de s'embarquer avec des unités de contre-terrorisme, par exemple, ce qui réduit définitivement leur capacité et leur liberté. Donc oui, je pense que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Comment couvrir, par exemple, le terrorisme lorsque le califat était encore régnait encore en Syrie, Irak? C'était évidemment extrêmement difficile pour les journalistes d'imaginer pouvoir se rendre au sein de ce califat, et ceux qui l'ont fait étaient très vite contraints de passer par les fourches caudines du groupe islamique, de l'État islamique, ce qui réduisait l'intérêt de leur reportage. Donc oui, je pense que c'est un défi considérable.
Jean-Paul Marteaux, en 2017, vous publiez aux presses de l'UNESCO un manuel à destination des journalistes qui s'intitulait « Les médias face au terrorisme ». Vous travaillez sur une nouvelle mise à jour de ce manuel. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans et quelles seront les parties qui seront particulièrement mises à jour dans votre ouvrage, que je précise, on peut trouver gratuitement sur Internet en PDF sur le site de l'UNESCO?
On a en fait ajouté 3 chapitres qui tiennent compte d'évolution du phénomène terroriste ou d'éléments qui ont pris une connotation plus importante dans ce cadre-là. On a ajouté un chapitre plus important sur la question d'Internet et des réseaux sociaux dans la problématique terroriste, à la fois Internet comme un outil de recrutement, un outil de radicalisation, mais aussi un outil d'ailleurs pour combattre par des contre-discours ou par une information les discours terroristes. On a ajouté aussi une partie sur le rôle des femmes dans le phénomène terroriste, c'est un rôle qui était sous-estimé et on avait, disons, sous-représenté d'une certaine manière la présence des femmes dans le phénomène terroriste, ou qualifié d'une manière qui n'était pas nécessairement correcte, qui ne représentait pas vraiment la réalité. Donc ça, c'est un élément important. Et troisième élément, on a ajouté à ce manuel la couverture d'autres formes de terrorisme que le djihadisme, même si dans le manuel, moi, j'abordais l'ensemble des formes du terrorisme. Historiquement, il y a du terrorisme d'extrême gauche, il y a du terrorisme ethno-nationaliste, du terrorisme lié à des causes politiques spécifiques. On a eu tendance ces dernières années à se focaliser sur le djihadisme. Or, on voit bien que depuis quelques années, qu'il y a la montée d'un terrorisme d'extrême droite dans un certain nombre de pays, dans les pays occidentaux. Et c'est une dimension qu'on a voulu aborder parce qu'elle répond à la fois il y a des phénomènes communs entre toutes les formes de terrorisme, mais il y a aussi des spécificités qui dépendent de chaque forme de terrorisme.
Jean-Paul Marteaux, vous avez été le directeur européen de l'information de l'ONG Human Rights Watch et correspondant en Europe du Committee to Protect Journalists. Certains de vos travaux vous ont aussi permis de réaliser qu'on n'est jamais complètement maître en tant que journaliste de la façon dont les articles ou les reportages qu'on produit et qu'on publie sont reçus. Ce décodage par le grand public, à quel moment avez-vous eu l'impression qu'il a changé et qu'est-ce qu'il a fait changer au hasard, sont-ce le 11 septembre et le développement d'Internet et des réseaux sociaux qui ont pesé dans la balance?
Je pense qu'il y a toujours eu une question qu'on devait se poser comme journaliste. Il y a à la fois la fabrication d'informations, si je veux dire, mais aussi sa réception et sa diffusion. Et c'est un phénomène qui existe depuis le début du journalisme. Mais c'est vrai que depuis le développement d'Internet, notamment, et sa prolifération, la prolifération des réseaux sociaux, il y a vraiment, en face du travail d'information que peuvent faire les journalistes, la possibilité pour une audience extrêmement importante de ne pas nécessairement suivre ces médias d'information qui suivent au mieux les principes du journalisme. Il y a toute une série de médias sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui diffusent une information qui ne répond pas exactement aux critères du journalisme professionnel et qui donc permettent de contourner l'information des grands médias. C'est une réalité, puis aussi le décodage aussi culturel qu'on peut faire d'une information qui va être diffusée par un média, écoutée par des publics différents, sera comprise de manière différente selon les pays, les régions, les communautés auxquelles on appartient. Donc c'est un phénomène réel. Mais je pense que les réseaux sociaux et Internet ont permis, notamment à des groupes terroristes, quels qu'ils soient d'extrême droite ou djihadistes, de produire leur information, de contourner les grands médias et de s'adresser directement à un public qui, en plus de ça, depuis quelques années, a développé une forme de méfiance à l'égard des médias traditionnels. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement préoccupant pour les journalistes, mais préoccupant aussi pour la démocratie, parce que les médias traditionnels, malgré leurs défauts, leurs erreurs, répondent quand même à des principes journalistique essentiel, alors que sur les réseaux sociaux, c'est évidemment un autre monde où il est possible de prédiquer la manipulation, la désinformation de manière massive. Et c'est un défi considérable auquel les journalistes ont du mal à répondre.
Ils ont du mal à répondre, mais quelles sont donc les solutions? Du coup, doit-il y avoir davantage d'éducation aux médias, une éducation aux médias à laquelle participent les journalistes? Et les journalistes aussi doivent-ils peut-être davantage montrer la façon dont ils produisent l'information et les interrogations qui sont les leurs au moment où ils la produisent?
Moi, je pense que les deux formules que vous suggérez sont excellentes et complémentaires. Je pense qu'en effet, l'éducation aux médias me paraît essentielle, même si... je ne connais pas réellement de pays où on a réussi à développer des programmes assez vastes pour atteindre cette partie de la population qui est la plus méfiante par rapport aux grands médias. Mais c'est un effort considérable qui doit être renforcé. Par ailleurs, je pense en effet que la modestie des journalistes, leur volonté, leur souci d'expliquer comment ils travaillent, de corriger les erreurs qu'ils auraient pu commettre, de montrer qu'informer, c'est difficile, c'est une tâche extrêmement compliquée, me paraît extrêmement, extrêmement important. Je pense aussi que, on l'a vu d'ailleurs avec le journalisme sur le Covid, un rapport récent du Reuters Institute de l'Université d'Oxford vient de montrer que cette période Covid a permis à un certain nombre de médias de référence de devenir de nouveau des sources d'informations qui bénéficient d'une plus grande partie, d'une plus grande confiance, d'une partie importante de la population. Et je pense qu'il faut vraiment, du côté des journalistes, pratiquer ce métier avec d'autant plus de rigueur que les enjeux auxquels la société est confrontée sont vraiment énormes, que ce soit le terrorisme ou le Covid. Et je pense que établir la confiance, c'est vraiment l'objectif essentiel que devraient poursuivre les médias pour reconquérir petit à petit cette empathie qu'ils pouvaient avoir dont ils pouvaient bénéficier de la part du public. Je crois que c'est essentiel. Et je crois que ces deux dernières années, du moins les études semblent démontrer, il y a une plus grande confiance dans un certain nombre de pays, pas partout, mais dans un certain nombre de pays, une plus grande confiance à l'égard des médias qui sont considérés comme des médias traditionnels ou des médias de référence. Je crois que c'est une partie de la solution.
Merci beaucoup Jean-Paul Marteaux. C'est toujours bénéfique de parler de solutions et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Jean-Paul Marteaux, je rappelle que vous êtes chroniqueur au quotidien belge Le Soir et directeur du module Médias et terrorisme à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Je vous dis à bientôt dans l'Atelier des médias.
Merci beaucoup.
On finit comme chaque semaine cette émission avec Mondoblog Audio, qui fait entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Direction le Bénin avec Mariamar Védrine Conon. Dans ses billets, cette militante féministe pousse pour l'élargissement du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Car si avorter est aujourd'hui autorisé au Bénin, c'est dans un cadre très restreint. Pourtant, de nombreuses femmes ont recours à l'avortement en dehors de ce cadre, dans la clandestinité.
Et si l'accès à l'avortement au Bénin était sans restriction? Pendant une de nos sensibilisations sur les stigmatisations liées au service d'avortement, une dame a laissé entendre ce qui suit. Il y a quelques mois, j'ai vu ma fille mourir sous mes yeux dans un torrent de sang. Je suis restée paralysée, incapable de faire quoi que ce soit pour qu'elle reste en vie. En effet, après une grossesse non désirée, son partenaire et elle se sont rendus chez un type du quartier pour un avortement clandestin. J'ai été informée quelques minutes avant sa mort. D'autres diront, et si elle n'avait pas eu de rapport sexuel sans être prête? Et si elle n'avait pas décidé d'avorter? Mais ne serait-elle pas en vie si elle avait eu droit à un avortement sécurisé? Au Bénin, l'interruption volontaire sécurisée d'une grossesse n'est possible que dans 3 cas. Lorsque la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger, lorsqu'il y a malformation foetale, en cas de viol ou d'inceste. En termes clairs, aucune femme ne devrait obtenir le service d'avortement en dehors de ces conditions. Mais la vérité est que, De nombreuses filles et femmes font le recours à ce service dans la plus grande clandestinité, ce qui constitue un véritable problème de santé publique. Lever la restriction de la loi sur les services d'avortement ne permettrait-il pas d'en finir définitivement avec les cas d'avortement clandestin, les morts liées aux interruptions volontaires de grossesse non sécurisées? Ceci ne permettrait-il pas à chaque personne de décider d'avoir des enfants au moment opportun? Comme cette jeune fille, plusieurs filles ou femmes perdent la vie. Plein d'autres femmes perdent à jamais le droit de devenir un jour mère. Tout ceci parce que la législation a mis des pincettes trop étroites sur l'offre des services d'avortement en la rendant restrictive.
C'était Maria Mar, mondoblogueuse béninoise du blog Védrine Talks. Retrouvez les billets des centaines de blogueuses et blogueurs francophones sur mondoblog.org.
mondoblog.org.
C'est la fin de cette émission, réalisée par Laurie Plisson. Je vous rappelle que l'Atelier des médias est disponible sur toutes les plateformes et applications de podcast, et ce, avant même sa diffusion à la radio. Vous pouvez vous y abonner gratuitement sur Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore l'application Radio France. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Dans une semaine, je vous parlerai depuis les Assises internationales du journalisme de Tours pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.